Luc Tournabien. Intitulé de ce livre Kanaki Nouvelle-Calédonie, 40 ans d'émancipation pour mieux recoloniser. C'est également un témoignage et une réflexion de l'intérieur pour mieux comprendre les enjeux depuis 1984. Ce livre, dès le départ, s'affiche. Donc, c'est un personnage qui est là depuis plusieurs années et il est présenté comme quelqu'un qui est arrivé au pays en 1981. La photo qui présente le livre, il y a un drapeau de Kanaki. Il y a aussi un paysage typiquement de chez nous pour dire que c'est un livre déjà qui est très engagé. Ce livre, c'est quand même plus de 260 pages, mais on va commencer par, bien sûr, ce que l'on peut dire, la table des matières. Comment résumer, en fait, le livre avec cette table de matière-là?
Alors oui, effectivement, 260 pages, c'est dû à 5, hein, donc ça fait 130 pages en format A4, et donc ça fait la moitié en feuilles. Pour pas impressionner le lecteur, j'ai essayé, ça fait 130-65 feuilles A4. Donc c'est pas si monumental à lire, on va dire 4 heures pour un lecteur aguerri, et 5, 6, 7 heures pour quelqu'un qui lit rarement. Donc j'ai trois parties en fait. La première partie, c'est toute la partie des événements, quand j'étais plongé dedans, et en plus dans le cœur de la lutte de l'époque, c'est-à-dire à Thiot. On avait un maire qui avait créé le Front National et on est passé directement avec un maire indépendantiste du Palika, dont ensuite j'ai été secrétaire général de mairie. Après, j'étais au camp Est suite à des événements que je raconte également, et je raconte aussi le camp Est commencé. Il y a bien sûr, malheureusement, à l'intermédiaire, les massacres de Yangen, il y a UVA, etc., les accords Matignon. Donc ça, c'est toute la première partie. Avec aussi une coopérative qu'on a montée avec la FLN Cassatio, c'est des choses très intéressantes de terrain, comme le reste. Après, on a eu l'accord de Nouméa, donc ça c'est la deuxième partie, décortiquer les 20 ans d'accord de Nouméa, de ce qui s'est passé, des magouilles aussi de la droite pour essayer de freiner l'accord de Nouméa qui pourtant avait signé vers l'indépendance, et quand ils se sont aperçus que ça pouvait arriver, ils se sont dit qu'il fallait freiner. Et puis la troisième et dernière partie qui est très importante aussi, bien sûr, c'est les trois consultations. La première, quand Macron a déjà, il commence à décider d'intervenir et de lancer la campagne du non au Théâtre de Lille. La deuxième, où ils mettent le turbo pour essayer de nous contrer. Et la troisième, où c'est l'apothéose, là, carrément, ils avancent la consultation, ils la font en plein massacre du Covid pour essayer de nous pénaliser. Et jusqu'à aujourd'hui, où ils en tirent la conclusion fausse que normalement c'est l'avenir dans la France et avec un corps électoral dégelé, etc. Et après avoir menti que l'accord de Nouméa était fini, alors qu'en fait on est toujours sous son régime, c'est assez évident pour tout le monde. Voilà les trois grosses parties de ce livre, sur 40 ans de vie, 40 ans d'histoire.
Cette troisième partie où vous dites consultation, une, deux et patatras. Voilà donc pour avoir une idée de ce qui est écrit dans ce livre, de ce que vous pouvez découvrir. La vie d'une personne qui est arrivée et qui a vécu et qui vit toujours dans ce pays. Il faut le dire qu'il y a quand même, pour vous, qui est très important aussi, c'est de parler de certaines citations, des hommes politiques qu'il faut peut-être aussi dire, parce que dans ce qui est écrit et dans ce que vous avez vécu, il y a des hommes politiques qui parlent de ce qu'est le pays, mais parfois qui se contredisent. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage, par exemple, de ce que vous avez écrit sur certains hommes politiques?
Alors, oui, il y en a pas mal. De toute façon, je ne spoilerai pas le bouquin, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a 4-5 heures de lecture, et là, on a une demi-heure à peu près. Mais je retiens, par exemple, quand Macron est... Le président Macron est passé au Théâtre de Lille à la suite de sa venue en 2018. En quelque sorte, il a carrément lancé la campagne du non, hein, en fait. Et donc, j'en lis un petit passage. Alors, dans les premières minutes de son allocution, il usa du qualificatif de palimpseste. Palimpseste, je dis au lecteur, à l'auditeur. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, et donc j'ai été chercher dans le dictionnaire. Je suis pas en train de feinter, c'est Macron. pour qualifier donc ce mot de palimpseste qu'il a utilisé pour qualifier notre histoire. Et quand on va le voir dans le dictionnaire, bien, la métaphore était claire. Un palimpseste étant une œuvre que des copistes ont effacée pour la recouvrir d'une seconde. Je continue ma lecture. Je pensais alors que ce jeune et élégant président, quand il avait déclaré en 2017 aux Algériens que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, n'en rejetait peut-être pas les buts, mais en critiquait simplement les moyens quelque peu barbares. Ce président, manifestement sûr de lui, voire suffisant, semblait approuver qu'un peuple puisse venir en effacer un autre et le remplacer par sa propre écriture, pourvu peut-être qu'on le fît par des moyens plus subtils qu'autrefois. Je continue ma lecture en sautant un petit passage. La suite du discours fut à l'avenant. Par une pirouette littéralement insensée, il déclara brièvement qu'il ne prendrait pas parti pour justement pouvoir nous indiquer librement le sens de cette consultation. Ce qui est carrément contradictoire et il recule devant rien. Semblant ainsi libéré du poids de ses contradictions, le président se lança dans un plaidoyer multiforme en faveur du non durant 45 minutes. Tout y passa, de la grandeur de la France à sa zone maritime, de l'axe Indo-Pacifique, contre la Chine bien sûr, et au ralliement de Gaulle, à l'abandon du Pacifique par les États-Unis et le Royaume-Uni, il a osé dire ça aussi, de la vocation de la puissance mondiale de la France, qui a 8000 soldats au total dans tous ses territoires. Voilà un petit passage qui explicite un petit peu comment il a lancé la campagne du non, alors qu'il était censé, de par l'ONU et de par l'accord de Nouméa, être, d'après l'ONU, c'est d'être favorable, de soutenir le pays vers son émancipation. Et l'accord de Nouméa dit que la France accompagne la Calédonie dans son émancipation aussi. Et là, il fait le contraire, carrément.
Voilà, vous venez donc de découvrir un extrait de ce qui est écrit dans ce livre pour simplement vous dire que ce sont des, je le disais il y a un instant, qu'il y a aussi quelques réflexions de l'écrivain dans cet ouvrage. On va aussi parler de la démographie puisque vous vous intéressez aussi à ce qui s'est passé dans le pays au niveau démographique, c'est puisque le sujet est très important pour comprendre mieux l'histoire de ce pays. La question démographique, vous le soulignez aussi, vous en parlez dans ce livre avec des illustrations.
Voilà, c'est exactement ça. Dans ce livre, j'évite la polémique stérile, le baratin, celui-là il est mal, celui-là il dit des conneries, etc. Non, c'est moi j'aime bien argumenter avec des raisonnements basés sur des faits. Donc souvent, par exemple, je cite des passages de l'ONU, des textes de l'ONU qui nous régissent, puisqu'on est un pays en voie de décolonisation inscrit à l'ONU pour ça. Il n'en reste plus que 17 hein, sur 74, et dont deux Français, donc la Calédonie et maintenant la Polynésie. Donc j'ai inséré un graphique qui est fait à partir des sources du recensement, de l'ISEE et de l'Atlas calédonien et des choses comme ça, donc des sources a priori fiables. Et sur ce graphique, ben, ça nous montre, ça étaye un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire que quand, juste après avoir donné le droit de vote aux Kanaks, difficilement et en renaclant, la France a constaté que les Kanaks risquaient d'être majoritaires, aussitôt, 1956, 1960, loi Jacquinot, et c'était bien avant qu'on parle de Mesmer, qui est beaucoup plus connu, parce que ça, c'est circulaire, a fait un peu le tour de la Calédonie, mais déjà Jacquinot, avant, avait programmé l'envoi de familles. Il avait calculé le nombre en fonction du nombre de Kanaks et d'autres ethnies présentes et de ce qu'il fallait faire. Ensuite est venu Jacquinot et on voit à chaque fois les impulsions sur les graphiques. Le plus étonnant peut-être, parce qu'on n'en parle jamais, donc ça se voit bien dans le graphique, c'est que depuis l'accord de Nouméa également, il y a beaucoup plus d'arrivées de métropolitains. Alors, il y a un paradoxe parce que, et plus encore que l'efficacité de Jacquinot et de Mesmer finalement. Ça a été masqué longtemps et personne s'en apercevait simplement parce que ces gens-là n'avaient pas le droit de vote du fait qu'on était un pays en décolonisation. On est sur deux problématiques. La première, c'est celle de l'ONU. L'ONU proscrit, interdit, dit à la France, dit aux pays coloniaux, qu'ils ne doivent pas faire venir des gens de l'extérieur dans les moments où il y a une décolonisation avec des référendums, puisque ça va fausser les scrutins. Et donc, La France l'a interprété en disant ben, on va les faire venir quand même, mais ils n'auront pas le droit de vote. Sauf que la tricherie, elle est que, ben, ok, on ne leur donne pas le droit de vote, et puis dès les scrutins terminés, on essaie de leur redonner. Donc, du coup, la colonisation repart de plus belle avec le stock des gens qui étaient déjà installés. Ces personnes-là, ils sont acceptés, ils sont bienvenus, mais en tant que résidents. Et comme ils le seraient au Canada, en Australie ou ailleurs, et ça paraît assez légitime. Sauf qu'ils n'en ont pas été informés, ce qui aurait dû être fait à l'aéroport, en leur distribuant un petit livret, un petit cahier d'explication du statut du territoire, de l'emploi local, etc. Et donc du coup, ils sont choqués et ils sont sous le coup aussi de l'influence de la droite qui leur dit « Regardez, c'est scandaleux, un homme, une voix, etc. » On n'est pas dans cette situation ici, c'est légitime, c'est légal. La Cour européenne des droits de l'homme l'a encore confirmé en juillet 2023. C'est la Cour de cassation. Et donc, ça pourrait continuer comme ça si la France le voulait. Voilà la situation et c'est ce que j'explique dans le livre aussi.
Voilà, vous l'avez compris. Donc, il y a d'autres situations qui sont montrées du doigt et qui sont analysées par M. Tournabien. Je rappelle aussi que dans le livre, vous pouvez aussi découvrir qu'il y a une analyse de vous, M. Tournabien, sur les interdépendances, en évoquant les pays de la région, d'autant plus que vous allez aussi traduire ce livre pour les pays anglophones. Mais en tout cas, vous vous êtes intéressé aussi à la question des pays indépendants dans le Pacifique. C'est d'ailleurs un extrait du livre que vous allez lire pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire.
Alors, ça, c'est un extrait, donc, vers la fin du livre, une sorte, c'est avant la conclusion. Donc, je lis. Alors, j'espère toujours qu'un jour, un gouvernement de la France comprendra que le juste milieu qui pacifiera enfin le pays est dans une forme d'indépendance en libre partenariat ou association. Dans le Pacifique, peu de Français le savent. Ce livre est écrit en France aussi, hein, pour la France, pour les Français. C'est pour ça que je m'adresse aussi à eux. C'est une situation banale, quasi majoritaire, et dans l'esprit océanien, qui aime les échanges, mais qui aime tout autant sa façon de vivre et sa culture. Les liens du Commonwealth, par exemple, sont un exemple fréquent en Océanie. Outre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont bien connus, en sont membres également la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Salomon, Tuvalu, Nauru, les Samoa, Tonga, le Vanuatu. Sans avoir aucun lien historique avec les Britanniques, même le Rwanda et le Mozambique en Afrique ont rejoint le Commonwealth pour profiter des liens diplomatiques, économiques, voire éducatifs. D'autres pays sont en libre association avec l'ancienne puissance administrante, comme les îles Marshall, la Micronésie et Palaos avec les USA. On a les îles Cook et Niue qui sont associées à la Nouvelle-Zélande. Kiribati, 130 000 habitants et sans armée, a signé un accord de défense avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a Nauru qui a fait de même avec l'Australie et Samoa avec la Nouvelle-Zélande. Le Vanuatu est aidé par l'Australie pour surveiller sa zone économique. Les possibilités sont nombreuses et la France, qui n'a jamais réussi la moindre décolonisation, devrait s'intéresser à cette solution à la fois moderne, partagée et consensuelle.
Donc, ce que vous dites dans la discussion que nous avons aujourd'hui, donc vous l'écrivez, mais on le voit bien autour de nous quand on est dans le Pacifique, nous, c'est bien ça. Hein.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les normes de l'ONU, je ne sais plus quelle délibération, mais je l'ai noté dans le livre, il est écrit que le choix d'une indépendance avec des partenariats ou une association est un des choix possibles pour un peuple qui veut s'émanciper. Mais il y a une condition qui est intéressante pour le pays en question qui veut s'émanciper, c'est que l'ONU précise bien que l'association doit être réversible. C'est-à-dire que si au bout d'un moment le pays nouvellement indépendant veut modifier le statut d'association, il doit pouvoir le faire. La puissance de tutelle ne doit pas imposer une association qui ne peut plus être revue, corrigée, modifiée. L'État reste réellement indépendant. C'est un peu ce que craint parfois la France, certainement, mais c'est aussi à elle d'avoir des rapports qui font en sorte que cette association perdure, évidemment.
L'autre question qui me vient à l'esprit, c'est la question économique. Donc, dans ce livre, vous l'évoquez aussi, donc c'est très important.
Oui, la question économique, c'est celle sur laquelle la droite a le plus peur et appuie le plus pour nous faire peur. de dire que si on est indépendant, ça va mal se passer, ils nous ont comparé au Vanuatu. Alors c'est complètement dénué de tout sens. J'ai une fiche dans ce livre sur le Vanuatu aussi qui montre à quel point ils étaient dénués quand ils ont été laissés et à quel point c'est un pays, c'est le pays le plus à risque dans, dans les critères de l'ONU pour les catastrophes naturelles, c'est-à-dire en quantité de séismes, tsunamis et autres volcanismes et cyclones. Et puis ils sont éparpillés entre 87 îles. Évidemment, les conditions économiques ne sont pas du tout les mêmes et ils ont beaucoup, beaucoup progressé et ils ont un régime parlementaire qui fonctionne pas plus mal que celui de la France, notamment. Alors pour ce qui est de l'économie aussi, je me rappelle un livre, c'était Être caloche aujourd'hui, je crois, que je cite dans mon livre, c'est où Lafleur disait, à l'époque, ça date déjà, mais au fait, mes services m'ont montré qu'il part, il retourne en France autant d'argent que la France nous donne. Et donc ça, c'était pas des indépendantistes qui le disaient, c'était Lafleur lui-même. Et si on voit aussi les conditions économiques, j'ai lu des livres d'économie et j'en cite quelques-uns, notamment un qui a été fait en collaboration avec l'IAC, donc qui est très pertinent et très documenté. Ils disent à la fois que beaucoup d'argent retourne en France de par des structures économiques qui en fait sont des antennes ici de la France et dont les bénéfices retournent en France, entre autres les assurances, mais pas que, pour le traitement de l'eau, l'électricité, un certain nombre de choses. Et que donc, si nous on maîtrise plus ces éléments-là, ce qui leur fera pas plaisir à eux certainement, on peut retirer beaucoup de choses. En fait, cette économie, actuellement, elle est sous-développée. Je l'explicite aussi, on a quand même 95% de notre surface agricole utile qui est avec de l'élevage extensif, ce qui est quand même un non-sens. Et on utilise très peu nos ressources marines aussi pour le poisson et tout, on a des pêches embryonnaires. Même Macron rigolait en disant que c'est le seul pays au monde où les thons meurent de vieillesse. Et ça le faisait rire. Bref, toujours est-il qu'on a de grosses potentialités, elles sont sous-utilisées parce qu'en fait la France et les importateurs préfèrent nous maintenir comme ça. Si on était indépendant, il est sûr que ça serait un petit peu délicat pendant quelques années et ensuite ça irait mieux. À souligner, pour terminer, je le dis aussi dans ce livre, donc je fais une petite récap sur l'économie, qu'il y a eu une conférence il y a quelques années à l'université sur l'économie du pays et je me rappelle d'une intervention de Monsieur Beltram, qui avait fait des enquêtes statistiques sur les économies des pays du Pacifique et qui avait mis en regard les économies des pays devenus indépendants et celles des pays restés dépendants. Et il avait noté que, en fait, il n'y a pas de différence significative, il n'y a pas de chute économique des pays qui sont devenus indépendants. Ils en sont bien sortis. Et ça n'a pas brillé beaucoup plus, mais en tout cas, ils étaient libres et leur économie n'a pas coulé. Et la nôtre, elle fera pareil. Et si je rajouterais quand même une chose, c'est que la Calédonie a une économie actuellement qui est dans les plus fortes de tous les territoires d'outre-mer, qu'elle est dépassée juste par Saint-Pierre et Miquelon, et il y a un autre confetti, je ne sais plus lequel, et elle est au même niveau, au niveau économique, que la France, que tous les départements français, hors l'Île-de-France. Donc c'est quand même assez costaud, voilà.
Ainsi donc, le parcours de ce livre, il y a beaucoup de choses dont vous évoquez dans ce livre, ce que vous avez vécu, et donc il faut le lire ce livre.
Ouais, c'est ça, ce livre c'est un mélange historique de 40 ans, de terrain, de vécu. Je raconte, bien sûr, moi je suis quand même retrouvé dans une bonne centaine de tribus sur les 343, je crois, du pays, dans des réunions politiques, que ce soit du FLNKS ou d'autres. Et donc c'est vrai que c'est une richesse de terrain. Donc je raconte comment ça se vit de l'intérieur. Les Français se rendent pas forcément compte, les Calédoniens si, bien sûr, mais ici on a le nombre de cotisants dans des partis politiques, ça équivaudrait à des partis qui ont des millions d'adhérents en France, et ça n'existe pas en France. Je veux dire, ici la vie politique indépendantiste, elle est extrêmement forte, extrêmement riche. Le nombre de militants en proportion de la population, il est quasiment stupéfiant. Et ça, c'est une force considérable, et c'est pour ça que ceux qui pensent que sans indépendance, sans une forme d'indépendance, comme disent certains de droite, on va vers 50 ans de bonheur et de tranquillité, de stabilité. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est impossible, c'est carrément impossible, il faut qu'on trouve une autre solution.
Il y a un premier livre qui a été écrit donc, il y a 5 ans après, c'est ce livre, 40 ans d'émancipation, 3 points de suspension pour mieux recoloniser, point d'interrogation. C'est un livre, en fait, pourquoi parler de 40 ans, c'est votre vécu, c'est quoi qui a changé la donne depuis 5 ans, donc aujourd'hui?
Ben, en fait, donc, l'idée de base, c'était de communiquer toutes ces informations aux Français. Donc à la métropole, parce que aussi on a des enjeux en France là, dans la mesure où les députés, les sénateurs vont être amenés à réfléchir et à voter ou non une réforme constitutionnelle qui va bouleverser beaucoup les équilibres et surtout stopper net la lutte vers l'indépendance, puisqu'à partir du moment où les Kanaks sont de plus en plus minoritaires dans les votes, ils n'ont plus leur mot à dire carrément. Donc une régression assez énorme, et ça, le choc, il va être considérable. Et donc je voulais publier ce livre, qui est un livre très factuel, où il y a beaucoup d'éléments factuels, pour qu'un certain nombre de Français, bon, dans ma naïveté, sans doute, mais les 68 millions de Français ne vont certainement pas tous le lire. J'en suis conscient. Mais en même temps, je me suis dit que c'était pas prévu au départ, d'ailleurs, par l'éditeur de France de départ, mais il fallait que le livre soit publié ici, parce qu'il fait le point sur 40 ans, et moi j'ai un certain nombre de jeunes qui me disent, ben oui, les événements, machin, ceci, ouais, mes parents, ils veulent pas trop m'en parler, je sais pas trop ce que c'était cette histoire, ben voilà, dans les 40 ans-là, dans ce livre, tout ça c'est décrit. Donc les gens qui veulent connaître l'histoire, bien sûr, d'un point de vue indépendantiste, hein, je ne le nie pas, mais j'essaye quand même de rester honnête et objectif. Et ben voilà, ils ont l'histoire du pays, quoi. Voilà.
J'allais justement poser la question, est-ce que ça peut aider les jeunes? Vous l'avez pratiquement répondu. Et vous vous référez aussi à d'autres livres, à d'autres œuvres dans ce livre.
Oui, c'est vrai que moi j'ai mes tripes dedans, certainement, mais j'essaye de prendre une distance. Mais j'ai aussi ma tête. C'est-à-dire que moi, j'aime bien certifier les choses, les expliciter et renvoyer vers les auteurs. Si je dis, par exemple, bon, ça va pas être très gentil, mais que Pierre Frogier a menti en disant que le mot décolonisation n'est pas dans l'accord de Nouméa, eh ben, j'ai l'extrait de la vidéo si ANC la première. C'est quand même assez hallucinant de voir quelqu'un qui a participé à l'écriture de l'accord de Nouméa, qui en est signataire, dire de façon appuyée, sûre de lui, à la télévision, que l'accord de Nouméa n'est pas un accord de décolonisation. Je veux dire, il a signé en fermant les yeux, ou il est en train de nous mentir, ou c'est de la propagande. Enfin bref, c'est inadmissible. Donc quand il y a des choses comme ça, il est certain que je fais la référence au texte de l'ONU. Quand des gens sur les réseaux sociaux, où je participe de temps en temps, disent les îles du Pacifique ont validé la troisième consultation, l'ONU a validé la troisième consultation, ben c'est faux. Je suis désolé, mais il faut lire les extraits des assemblées générales de l'ONU et du Forum des îles du Pacifique. Et donc je cite ces extraits pour montrer que pas du tout, ils sont indignés, carrément indignés. Et c'est pas les seuls, il y a bien d'autres pays qui le sont également. Donc ça, l'attitude de la France, elle passe pas très bien dans le Pacifique et elle passe pas très bien dans le monde.
La question de fin, c'est bien sûr l'invitation de vous à lire le livre, mais aussi parce qu'il est présent partout dans le pays.
Oui, merci à Radio Jido déjà de me donner cette caisse de résonance, d'avoir ce moment d'entretien et d'échange. Et oui, effectivement, donc depuis une bonne semaine, c'est distribué par Calais le Livre Bookin, normalement dans toutes les librairies qui l'auront accepté. Si vous allez en librairie et que vous le demandez, s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander parce qu'ils sont en lien avec Bookin et ils doivent l'avoir, sauf mauvaise volonté éventuelle, ça peut arriver, mais c'est a priori rare. J'ai vu les librairies de la côte ouest même m'ont dit qu'ils le prenaient. Sur la côte est, c'est encore plus facile. Dans le sud, les grandes surfaces également l'ont. Voilà, à 1950 francs, il est en prix public. J'ai essayé d'être le plus bas possible.
Voilà, pour vous dire et terminer donc cette émission, je vais vous lire un extrait donc, de ce qui a été écrit de la présentation donc, de Luc Tournabien. Je cite, « Ce témoignage dense nous fait entrer dans une problématique colonialiste hors norme, mais aussi dans une vie de tous les jours surprenante, toutes deux trop peu connues de l'Hexagone, une situation qui mérite à la fois l'attention et la détermination des Français. Car aux antipodes, l'État opprime en leur nom, triche, manipule, bafoue les principes qu'il affiche et se montre prêt à tout pour ne pas perdre son ultime colonie de peuplement. Fin de citation donc pour la présentation de Luc Tournabien par des personnes qui ont lu ce livre. Merci, très chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien et à très bientôt sur le canal.